Bienvenue à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, chaque mercredi de 21h à 22h. Nous revenons ce soir sur une des plus grandes énigmes judiciaires de l'histoire de la justice française. Il s'agit de l'histoire d'un homme accusé d'un crime sans cadavre, sans témoin, sans arme du crime et sans aveu. Il s'agit de l'affaire Seznec et nous avons le plaisir et l'honneur de nous entretenir avec le petit-fils, inlassable défenseur de l'honneur et de l'innocence d'un homme qui passa, rappelons-le, un tiers de son existence au bagne en Guyane. Denis Seznec, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et merci à vous d'être devant le micro de Radion. Alors, on va bien sûr revenir sur cette affaire. Vous avez fait paraître en 1992 un livre chez Robert Laffont, qui est maintenant bien connu, je crois, dans les librairies et qui a pour titre « Nous les Seznec », livre dont l'édition a été revue et augmentée en 2009, on est bien d'accord. Oui. Et puis, vous avez sorti d'autres livres. Il y a eu donc « Seznec, le bagne » chez Robert Laffont et « L'affaire Seznec en photo des assises au bagne », toujours chez votre éditeur fidèle, Robert Laffont.
Je suis un fidèle. Oui.
Alors, les erreurs judiciaires dans la mémoire collective des Français, il y en a plusieurs dans l'histoire. Bon, l'affaire Dreyfus, mais Dreyfus a été jugé par une cour militaire, ce qui n'est pas le cas de votre grand-père. Il faut bien le préciser. Il y a l'affaire Calas, où Voltaire a pris la défense de cet homme. Mm-hmm. Puis il y a l'affaire du courrier de Lyon avec Joseph Le Surc. Mais c'est... Et puis bon, il y a eu après...
Trois coupables, quatre guillotinés. Pour le faire.
Il y a eu ensuite.
Il y en a forcément un de trop.
Il y a eu ensuite Denis Seznec, ce qu'on a appelé le Tchernobyl judiciaire avec Outreau, mais on ne va pas trop en parler, s'attacher à votre affaire, l'histoire de votre grand-père. Alors, Denis Seznec, l'affaire Seznec commence en 1923. Mm-hmm. Donc, votre grand-père, on peut le présenter un peu. Donc, il est marié. Il a, à ce moment-là, trois ou quatre enfants.
Il a quatre enfants.
Il y a quatre enfants à l'époque. Mm-hmm. Et puis. Pour faire simple, disons que votre grand-père avait une scierie, une belle scierie, une assez belle affaire. Mmh. Il sympathise avec un notable local qui s'appelle Pierre Quemeneur. Alors, Pierre Quemeneur, c'est un vendeur de bois, c'est un célibataire de 45 ans. Il est conseiller général du Finistère.
Mmh. Il vise la députation.
Et il est promis, en tout cas, un très bel avenir politique.
Oui.
Et puis, les deux hommes sympathisent à l'époque. Quemeneur rencontre votre grand-père et lui propose en fait de faire un peu des affaires autour de ventes de voitures qui sont des surplus de stock de l'armée américaine.
Des stocks américains.
Des restes de la Première Guerre mondiale. Alors, l'affaire commence autour donc de cette entente commerciale entre ces deux hommes, jusqu'au jour donc où ces deux hommes... Guillaume Seznec, votre grand-père, et Pierre Quemeneur doivent se rendre à Paris. Mmh. Et là commence l'affaire.
Ouais, c'est le 25 mai 1923. Et ils partent donc de Rennes au petit matin, 5h30 du matin. Et ils doivent se rendre à Paris parce que Quemeneur a un rendez-vous avec un dénommé Gerdy, dit Charlie l'Américain. Et pour un lot d'une centaine de voitures à venir, et dont à la destination, les 400 quotidiens de l'époque, on parlera par la suite, la destination finale est l'Union soviétique qui est balbutiante, ce sont les soviets. Ça va devenir la première armée du monde, l'armée de Trotsky, l'armée rouge. Mais ça, à ce moment-là, on ne le sait pas. Mais on les boycotte déjà. On les boycotte. Et depuis la guerre 14-18, depuis 17, il n'y a plus aucun pays occidental et aucun pays ne commerce avec les soviets. Ils sont boycottés par tout le monde. Et donc mon grand-père et Quemeneur partent le 25 mai 1923 pour Paris.
Puis votre grand-père, il a des connaissances mécaniques.
Oui, voilà.
Aussi qu'il a tenu à une époque un magasin de cycles qui a pris feu.
Voilà, enfin, voilà. C'est un peu l'informatique de nos jours. Un petit peu, on connaît la mécanique. Et ces deux hommes qui se sont connus, en fait, bien avant, ils se sont connus dans l'intendance, pendant la guerre 14-18, dans l'intendance, Quemeneur était mobilisé pour fournir des poteaux de mine pour les milliers de kilomètres de tranchées, et Seznec, lui, était mobilisé pour laver le linge, parce qu'il y avait une blanchisserie industrielle avant. Et quand les Américains arriveront, 1,5 million d'hommes quand même, ils déplaceront les machines à laver de mon grand-père de Trémillot à Morlaix dans une ancienne scierie. C'est pour ça qu'on connaît mon grand-père sous le vocable de maître de scierie parce qu'il redonnera vie à cette scierie. Alors voilà, ils sont pour faire court, mon grand-père reviendra seul à Morlaix. Alors, lorsque l'enquête va commencer à se déclencher, au bout d'un mois, un mois et demi même, c'est parce que les journaux, par exemple, commencent à en parler en page 7, en page 5, qui est devenu un homme politique breton, un notable breton qui a disparu. On ne sait pas. Mon grand-père fera même lui-même un voyage en train pour savoir ce qui est devenu Kemner. Et une disparition totale. D'ailleurs, c'est bien simple, 85 ans après, on ne sait toujours pas ce qui est devenu Kemner. C'est un mystère absolu.
Alors, le 20 juin 1923, on découvre la valise de Kemner au Havre.
Alors, trois hommes, donc mon grand-père, Maître Pouliquen, qui est le beau-frère de Kemner, qui est notaire, Louis Kemner, qui est le frère de Kemner, qui tient une fameuse propriété de Traunès, dont on parlera peut-être, qui fait 250 hectares de... Ouais, maintenant 800, maintenant. Hein. C'est la plus grande propriété de France de Conservatoire National du Littoral. Ces trois hommes vont aller voir un policier, c'est Léopold Fabria, à Rennes, et il signale la disparition. Il commence à se poser des questions. Nous sommes le 13 juin.
Voilà. Une semaine plus tard, le 21 juin 1923, le procureur de la République de Brest ouvre une instruction judiciaire pour meurtre. Ce qui est surprenant, il n'y a pas de cadavre.
Il n'y a rien.
Mais tout de suite,
rien.
On pense que Kemner a été assassiné. C'est quand même drôlement surprenant.
Il n'y a même qu'un seul journal qui sera un peu contre nous pendant très longtemps, qui était lié à la famille Kemner, quand même. C'est l'Ouest Éclair.
Qui deviendra Ouest
France, qui fera des excuses d'ailleurs par la suite. Ouest Éclair qui parle d'assassinat tout de suite, alors qu'on ne sait même pas s'il y a un crime. Ça reste d'ailleurs l'affaire, on ne sait même pas s'il y a un crime.
Hein. Mais il y a aussi, Denis Sénec, peut-être le fait qu'on voit entre votre grand-père un homme socialement plus modeste que Kemner. On tient peut-être une affaire.
Il y a un notable, puis quelqu'un qui est arriviste. Arriviste serait peut-être un grand mot, mais mon grand-père voulait réussir.
Enfin, si on en croit. Mais qui ne veut pas réussir socialement et professionnellement.
Surtout à l'époque. À l'époque, un incendie, c'était assez courant quand même. Les capitaines de bateau, 90% des Bretons, coulaient avec le navire. C'était pas une question d'honneur, c'est qu'ils savaient qu'ils auraient plus d'armement après. Donc les choses sont tout à fait différentes. Un failli, c'était un déshonneur total. Maintenant, c'est plutôt une façon de gérer les boîtes, maintenant. Il y en a certains, ils pourraient se suicider qu'un soir. Mais à l'époque, non. Il y avait le sens de l'honneur, on faisait pas faillite comme ça. Pour gérer sa boîte. Alors, mon grand-père revient seul à Morlaix. Et une police politique qui est la Sûreté nationale.
La secrète.
La Sûreté générale, vous voyez que je me trompe. Sûreté générale, qu'on surnomme la secrète, dont tout le monde craint, débarque en Bretagne, fouille chez Kemner, fouille chez mon grand-père, trois perquisitions, dont deux illégales. Et à la troisième, mon grand-père est à Paris d'ailleurs à ce moment-là, ils vont découvrir une machine à écrire.
Oui, alors on va pas trop brûler les étapes, parce que on y reviendra sur cette fameuse machine à écrire royale, cette demarque royale qui pose problème et qui montre quand même qu'il y a des incohérences, des ambiguïtés dans un dossier judiciaire qui a été malmené dès le début. L'affaire est menée quand même au départ par un commissaire qui s'appelle Achille Vidal. Et on va peut-être parler de l'adjoint de Vidal, qui
inspecteur
est effectivement
principal, d'ailleurs.
Pierre Bonny, inspecteur principal. Et alors, qui est ce Pierre Bonny? Alors,
d'abord, avant de dire Bonny, dont on ne connaît rien pour l'instant, c'est qu'il y a un inspecteur parmi d'autres, enfin, le principal. Il faut se remettre dans le contexte. C'est avant-guerre, on avait tellement confiance dans la police, c'est que les scellés étaient... la pince à sceller s'était confiée à un inspecteur. En l'occurrence, c'était Pierre Bonny. C'est-à-dire qu'une scellée pouvait faire trois mois après, puisque Napoléon, il a la pince. Maintenant, de nos jours, c'est un magistrat qui a la pince. C'est pas qu'il y a une défense à la police, mais disons, la confiance est plus limitée. Mais à l'époque, la police, on la croit hors de tout soupçon. Donc, on n'imagine pas qu'il y ait une histoire de fond d'écriture dont on va venir. On découvre une machine écrite chez mon grand-père, dont l'inspecteur Bonny est à la tête de cette brigade de policiers en civil. C'est une police politique. Il découvre, mettez des guillemets à découvre, cette machine à écrire.
Alors, Denis, il faut expliquer à nos auditrices et auditeurs l'importance de cette machine à écrire.
Elle a une grande importance parce que le 20 juin, les trois hommes ont été voir la police mobile le 13 juin. Le 20 juin, on a découvert une valise abandonnée à la gare une salle d'attente de la gare du Havre.
Qui est la valise de Kemner.
De Kemner. Il n'y a aucun doute, elle a été reconnue. Je passe sur
plein de choses. Il y a des traces de sale, la trempée dans l'eau.
Oui, voilà. Et puis la sœur de Kemner, là, la reconnaît. On trouve des affaires dedans, des sous-vêtements, etc. Mais dedans, il y a une promesse de vente. Et une promesse qui va être attribuée comme étant un faux en écriture, tapé par une machine à écrire, par celle qui est trouvée chez mon grand-père. On peut s'imaginer que les jurés qui vont le condamner à une voix par la suite se disent on n'a pas de cadavre, pas d'aveu, pas d'armes, pas de témoins, on n'a rien, mais on a un faussaire. Si quelqu'un qui fait un faux au détriment de quelqu'un, il est forcément au courant que la personne a été assassinée ou il sait qu'il réapparaîtra jamais vivante. On ne fait pas un faux au détriment de quelqu'un s'il risque de réapparaître. Donc on peut supposer que c'est ça. Maintenant, les autres experts disent le contraire. Maintenant, vous m'accorderez qu'entre 23 et maintenant 2011, il y a une sacrée... c'était un petit peu avant, les expertises, c'est en 2006. Il y a une sacrée évolution. Avant, c'était des graphologues à l'emporte-pièce. Maintenant, ce sont des gens qui, avec un cheveu, peuvent vous dire la race, l'âge, les maladies, ils savent tout avec un cheveu. Une goutte de sang, c'est un océan pour un expert actuel. Les choses ont évolué. Mais à l'époque, c'était un peu du pifomètre, on peut dire.
Enfin, quand même, vis-à-vis de la machine à écrire, il n'y a pas eu de prise de relevé d'empreintes.
Non, alors elle c'est va quand disparaître. Même aberrant, et ça. Elle va disparaître en plus. Elle va disparaître.
Alors qu'elle avait été, pendant le procès, gardée par des militaires casqués.
Casqués, baïonnettes au canon. Ah oui, à la une de l'Excelsior.
Autour d'une machine à écrire.
Et puis alors, celui qui dirige la brigade pour la est nommé par récompense, c'est le petit-fils Clémenceau. Et jour et nuit, on les voit à la une de l'Excelsior, ils gardent la machine à écrire. Mais c'est du cinéma. Parce que... Et en plus, il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Mais par exemple, la photo anthropométrique de mon grand-père.
Alors, on y reviendra, Denis Cédé. Mais la machine à écrire, qu'est-elle devenue?
Alors, la machine, on ne sait pas. Elle a totalement disparu. Ce qui fait que même de nos jours, on ne pourrait même pas faire une contre-expertise, puisqu'on n'a aucun élément. On n'a aucun élément. Ce qui est étonnant, c'est que cette machine a été examinée par Bay. Bay, c'était celui qui a inventé les empreintes digitales. Il faut quand même le faire. Il aurait pu au moins les relever. Hein, on aurait au moins des éléments pour l'avenir. On n'a même pas ça. On n'a rien du tout.
Concernant la présence de la machine à écrire qui est retrouvée chez votre grand-père...
Et elle est confiée à l'inspecteur Bonny.
Alors, on avait dit Bonny, on a trouvé qu'il y avait un policier une pèlerine un peu ample. On se demande même, parce que ça pèse 20 à 25 kilos.
C'est lourd. 25 à 30 kilos. Ouais.
On se demande quand même justement, quelqu'un n'aurait pas déposé discrètement cette machine à écrire à l'insu de
mon grand-père
et de votre
grand-mère. Disons que Bonny lui-même le dira dans une forme d'aveu. Il fera trois fois des déclarations beaucoup plus tard, mais quand il sera soupçonné dans d'autres affaires, affaire Savisky, l'affaire Prince, il dira que la machine à écrire, contrairement à ce qu'on a dit, on a pensé que j'avais déposé, il dira des choses comme ça à son fils qui répétera des choses dans un livre d'ailleurs. Et donc Bonny fera une forme d'aveu. Je ne peux pas parler d'aveu parce que aveu, c'est très...
Confession.
Ouais, confession, si on peut dire. Oui, voilà, parce qu'aveu, c'est...
Soulager peut-être sa conscience.
Avec un juge d'instruction, c'est fait dans des normes. Alors Bonny, il faut dire qu'il va devenir plus tard... Il sera mêlé dans toutes les grandes affaires
Stavisky, Prince.
Et il sera jeté en prison à un moment. Viré de la police.
Alors, il est chassé de la police pour trafic d'influence et détournement de fonds dans l'exercice d'une fonction.
Et soupçonné de falsification de preuves. Et on le soupçonnera même à un moment d'avoir procédé à l'assassinat du conseiller financier Prince, qui était un magistrat. On le soupçonnera, on n'aura pas la preuve.
Et alors,
il sera jeté en prison. Et au bout de 7 jours de prison, il déclare, si on continue, je le cite, si on continue de m'emmerder, alors la une des journaux, c'est M.. bien sûr, je dis tout sur l'affaire Cesnec.
Avant de marquer une première pause dans notre émission, sachez que Denis Cesnec sera à Tonnerre ce vendredi 18 novembre pour donner une conférence sur une des plus grandes énigmes judiciaires de l'histoire de la justice française, bien évidemment, l'affaire Cesnec. Ce sera à la salle du presbytère au 9 rue du Paty, donc à 20h30 ce vendredi 18 novembre à Tonnerre. Une conférence organisée par la librairie Plume et Images et la bibliothèque municipale de Tonnerre en partenariat avec l'association France Justice et avec Radion. L'entrée est libre, renseignements et réservations au 03 86 55 00 46 03 86 55 00 46.
proche de vous, partout. Pour vous, Radionne, au cœur de la Bourgogne.
La suite de Wagon Livre, votre émission littéraire, chaque mercredi à 21h sur le 90.5 ou via internet sur le www.radionne.fr. Notre invité est Denis Seznec pour évoquer la troublante affaire de meurtre sans cadavre, sans armes et sans témoins. Célèbre affaire judiciaire qui condamna son grand-père au bagne et aux travaux forcés en 1924. Revenons, Denis Seznec, si vous le voulez bien, à l'inspecteur Bonny qui, durant l'occupation à Paris, travaillera avec la Gestapo avant d'être fusillé à la Libération. Il va justement confesser au médecin qui est
Dr. Paul,
chargé de l'accompagner avant l'exécution, il déclare.
C'est un médecin légiste, oui.
Je regrette, je cite,
vous l'écrivez
dans le livre, Denis Seznec, je regrette d'avoir envoyé au bagne un innocent.
C'est un innocent. Alors, c'est pas reçu dans les normes. Pourtant, le Dr. Paul, c'est un médecin légiste officiel qui répète ce que lui a dit le type qui va mourir. Alors, ça n'a pas été considéré comme ressort, ils ne l'ont pas dit comme ça, parce qu'ils ont considéré, dans tous les commentaires, que ceux qui étaient contre, ils ont dit « oui, mais il a dit ça pour retarder son exécution ». Alors, moi, je me permets des réserves, parce que l'inspecteur Bonny, il était rompu aux procédures judiciaires, c'était sa profession. Il savait très bien que s'il ne le faisait pas dans des normes bien strictes, alors, il y a une chose qui me trouble, je le livre pour l'histoire, c'est qu'il y a un spécialiste de Leroux, le spécialiste de l'histoire de la résistance, à propos de la condamnation de Bonny, qui a été condamné et aussitôt fusillé, le 27 décembre 1944.
Il n'y a pas eu de délai.
Il n'y a pas eu de délai, alors que c'était quand même le principal agent de la Gestapo. Excusez-moi, mais si vous vous renseignez sur les mondes de la résistance, le moindre type qui avait un petit grade dans les tortionnaires de la Gestapo ou de la milice, il était cuisiné pour savoir ses réseaux. Lui, il est le numéro un, on le fusille tout de suite. Et que dit Delerue, le spécialiste de la résistance, dit « on a tout de suite fouillé sa cellule pour pas qu'il laisse de traîner de papier ». Et Bonny, toute son propos avec Lafont, qui était un truand, libéré par les Allemands à l'époque.
Carlingue, à l'époque.
Oui, voilà. Sous l'occupation. Il avait incité Lafont à se livrer. Ils se sont livrés. Ils n'ont pas été recherchés. Ils se sont livrés, contrairement à ce que je vous dis, c'est historique. Parce que Bonny dit, nous sommes intouchables parce que je les tiens tous. C'est terrible. Il parlait de toute la classe politique. Et Lafont lui a dit, tu nous commences à nous les casser avec tes petits papiers, tes petites fiches et tes petits trucs. Et la preuve, il y a deux solutions. Ou vous les tenez vraiment, ou on fait en sorte de les récupérer tout de suite et vous étouffer. C'est ce qui s'est malheureusement produit.
Mais Denis Seznec, il y a aussi un autre épisode concernant l'inspecteur Bonny.
Oui.
C'est Bonny qui rencontre sur les Champs-Élysées son ancien lieutenant.
Capitaine.
Bonny a fait la guerre de 14-18 et Bonny, à un moment, a tenté, dans une tranchée, de mutiler pour ne pas aller au combat. Le lieutenant, lieutenant à l'époque, peut-être passé capitaine après.
Bonny était lieutenant.
Son officier, en tout cas, le trouve en train d'essayer de se mutiler pour se rendre physiquement inapte au combat.
Ouais.
Et donc, les deux hommes se retrouvent
sur les Champs-Élysées.
Sur les Champs-Élysées.
Il lui reproche l'affaire Stavisky.
Et ce qui est incroyable, c'est que Bonny dit encore « j'ai envoyé un innocent au bagne ». C'est incroyable. On a l'impression quand même que Bonny a eu mauvaise conscience toute sa vie, que sa mort a été rapidement décidée.
Il disait qu'il craignait pour sa peau.
Sauf peut-être finalement.
Il craignait pour sa peau, il le dit en plus. Le capitaine Moreau-Lalande lui dit comme ça « l'affaire Stavisky salit la France, c'est une honte, etc. »
Donc on est dans les années
36. Bonny lui répond, et vous allez voir que la commission de révision va réagir là-dessus, parce que je vais vous le dire tout de suite, lui répond « il y a pire, mon capitaine, il y a l'affaire Seznec, il est au bagne et par ma faute. » Et Moreau-Lalande se tourne vers sa femme et lui dit « ce que je viens d'entendre, mais c'est gravissime. Je lui ai demandé de faire un témoignage écrit. Il m'a répondu qu'il risquait sa peau, etc. Mais retiens bien ça. » Alors, Moreau-Lalande mourra des suites de l'hypérite. L'hypérite, c'est un gaz qui peut mettre 20 ans à mourir. Il est mort en 39, malheureusement. Enfin, malheureusement, il n'a pas vu l'invasion de la France. Et sa veuve, même Moreau-Lalande, vous allez voir son histoire, elle porte témoignage à la Libération pour les propos qu'elle a entendus. C'est là que le reçu l'ordre a disparu. Mais la commission de révision, c'est assez récent, veut entendre Madame Moreau-Lalande. Coup de chance, 96 ans. Je cite les hauts magistrats, donc il y a 7-8 ans de cela, et les magistrats déclarent qu'elle est d'une telle intelligence, un tel respect, cette dame, qu'on ne met pas une seconde en doute la fiabilité de son témoignage. C'est les magistrats qui le disent. Ils l'ont interrogée. Et elle confirme tous les propos de Bonny devant son mari. Elle meurt 6 mois plus tard, 96 ans. J'ai eu de la chance. Et c'était une grande dame. Et ce n'était pas le genre à se compromettre dans un témoignage qui aurait été vasouillard. Voilà. Et sa fille vit toujours, Yassine Moreau-Lalande. Elle est docteur, elle a 65 ou 70 ans, je crois. Et elle était toute jeune à l'époque. Elle avait, je ne sais pas quel âge, 11 ans, 15 ans, je ne sais pas. Donc son témoignage est très secondaire puisqu'elle est trop jeune. Et puis elle n'a pas assisté à la conversation directement. Elle a entendu ses parents répéter la conversation. Donc c'est... En matière de justice, ce n'est pas un fait nouveau tel qu'on pourrait le retenir. Mais elle est toujours vivante.
Denis Sézenec, par rapport à la machine écrite, il y a un dernier élément qu'il faut souligner. C'est que votre grand-père, au cours de l'incendie du magasin de cycle qui lui a appartenu à une époque, n'avait aucune pilosité sur les mains et il avait les doigts un peu palmés.
Oui, c'est-à-dire que physiquement, là, les experts de l'époque l'ont dit, il était dans l'incapacité totale de taper à la machine écrite. Ce n'est pas une preuve absolue. Parce que quelqu'un d'autre, ma grand-mère en l'occurrence, aurait pu taper. Mais maintenant, les experts en machine écrire, alors là, je dis devant votre micro, il n'y a pas de problème. Tous les experts le diront. En une demi-heure de formation, on peut tout de suite savoir qui a frappé. Enfin, qui a frappé. Si c'est un débutant ou un professionnel qui a tapé une promesse. Parce que la force des doigts n'est pas la même. Il suffit de retourner la feuille. Et comme ce sont des lettres, vous savez, machine écrire, je parle, je parle pas informatique.
Il y a le relief du papier.
Oui, au verso, et un débutant ne donne pas les mêmes forces. Il ne tape pas avec les mêmes doigts. Le professionnel, c'est toujours le même doigt. Hein. Donc, peu importe. Disons que cette fausse promesse de vente qui a été terrible contre mon grand-père, parce que c'est pas une preuve, mais c'était un élément parmi d'autres.
Mais oui, ça devenait tout de suite la raison pour laquelle Guillaume Sézenec voulait faire disparaître Pierre.
Alors, il a refusé sa grâce au bagne en 1933, vous m'accorderez. Juridiquement, ça n'a pas eu une importance pendant les débats, parce que c'est pas juridique. Mais vous m'accorderez que pour le quidam et pour n'importe qui, c'est quand même important. C'est que si mon grand-père était coupable, vous pensez bien qu'il aurait accepté sa grâce au bagne en 1933. Ben, il la refuse. Donc ça, c'est le caractère de cochon de Breton, mais c'est aussi, pour ceux qui le savent, je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens ignorent, c'est que quand vous acceptez une grâce, c'est une demande de pardon. C'est sous-entendre, vous reconnaissez votre culpabilité, vous demandez pardon. Mon grand-père a refusé, il est resté au bagne. C'est un des records. Vous savez que la moyenne de vie était de 4 ans. 40% mourait la première année. Lui, il est resté au total 20 ans là-bas et 4 ans à l'île de Ré. 24 ans.
Ce qui est magnifique aussi, c'est que, me semble-t-il, la machine à écrire, on voulait la vendre à une époque, après le procès.
Oui, et
votre grand-mère a dit « Jamais je ne toucherai l'argent de cette machine, elle ne nous appartient pas. »
Elle ne nous appartient pas, absolument.
Une grande honnêteté, une grande probité, une grande combativité.
On a tout saisi chez nous, même la dot, on a tout saisi. Mais la machine à écrire, ma grand-mère a refusé que cette machine soit vendue au nom des Sézenec, car elle ne nous appartenait pas. D'ailleurs, elle a même une phrase même très forte, elle a dit « C'est la police qui l'a déposée, vendez-la au nom de la police. » Thank you.
Dans votre livre « Nous, les Sesnec », donc paru chez Robert Laffont, Denis Sesnec, vous parlez de l'affaire qui a meurtri votre oui. famille et vous aussi indirectement.
On oui, en parle sûrement,
oui. Tout à coup. Oh, bon, je pense quand même que
sûr,
vous...
C'est sûr, oui. Oui.
Bah,
oui.
Bon, on y reviendra, mais oui. vous parlez de cette affaire comme étant un énorme piège. Donc il y a des doutes, des suspicions quand même déjà sur la probité et l'honnêteté d'un grand nombre de policiers. On a parlé de Bonny. Il y a quand même les manigances de la police. C'est vrai que votre grand-père aura l'audace pendant son procès de laisser, de dire que la police avait été malhonnête, ce qui à l'époque, comme vous dites, en 1924,
pas bien.
Choque. Hein. Et puis, qu'y avait-il vraiment derrière ce trafic de voitures?
C'est là, moi je
ça
pense.
Ça paraît une des questions centrales peut-être.
À mon avis, c'est la clé de l'affaire. C'est que je crois qu'il y avait ordre de. Enfin, ordre. D'étouffer l'affaire Kemner en trouvant vite un coupable, Sesnec, pour ne pas qu'il y ait d'enquête sur le trafic des voitures d'un homme politique qui traficotait avec les soviets à l'époque. Et c'est vrai que les stocks américains, les stocks, les voitures, ils ne se posent pas la question en Union soviétique actuellement. Quand ils traitent de l'affaire Sesnec, pour eux, le trafic était notoire. Alors, on peut supposer, on n'a pas la preuve absolue, hein, on peut supposer qu'il y a eu un immense trafic entre la France, les stocks américains,
Des Cadillacs.
Surtout les Cadillacs, parce qu'il y avait 7 marques et les Cadillacs étaient nettement plus solides et plus belles d'ailleurs en plus.
Et dans votre livre, il y a une photographie où l'on voit Léon Trotsky.
Jezersky, c'était le chef de l'ancêtre du KGB.
Qui se trouve assis à l'arrière.
En 1923. Une voiture qui vient de Bretagne. Donc qui vient des stocks américains. Il y en a au moins une qui est venue. Et cette photo était fournie par la CIA. Excusez-moi, le FBI, vous ne m'en voudrez pas, mais pour moi, vu de France, c'est un peu pareil. Le FBI a fourni cette photo à des contre-enquêteurs qui travaillent pour TF1 à l'époque, et cette photo, je l'ai publiée. Elle a été publiée dans la revue britannique européenne sur l'affaire Sesnec, et je l'ai remis moi-même dans le livre.
Donc je crois qu'en lisant votre livre qui est passionnant, bon, il est épais, 600 pages. Je l'ai lu en 6 jours,
j'ai pris
des notes, mais c'est vraiment passionnant. C'est vraiment un très beau. Puis c'est un travail d'investigation rigoureuse, c'est un travail quand même intense. Mais on voit bien que l'enquête est mal conduite, qu'il y a de nombreuses négligences. Et puis surtout, Denis Sesnec, que l'enquête, elle est menée à charge, de manière partielle.
Ben, on le voit, Robert Hossein a fait une pièce en 2010, uniquement sur procès, qui n'est pas forcément le. Qui est favorable à mon grand-père, enfin favorable, on a le sentiment là en 2011 que ça a été monté de toutes pièces. Mais le procès, c'est pas le plus convaincant, c'est après. Par exemple, Bonny, quand il apparaît à la barre, dans la pièce de Hossein, les gens ne savent même pas qui est-ce. Hein. Ça veut dire qu'ils ne connaissent plus, il n'y a que les anciens qui connaissent, hein, ceux qui ont connu la résistance. Eh bien, il l'a fait voter par un bulletin secret par téléphone, SMS et tout ça, les Suisses, Français et Belges, vous avez 94% voté pour l'innocence. Et ce n'était que le procès. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 magistrats qui faisaient partie de la chambre criminelle de la Cour de cassation, transformée en Cour de révision pour l'affaire Sesnec, qui ont déclaré publiquement l'année dernière, à l'occasion de la pièce de Hossein, et ils ont déclaré qu'ils avaient voté contre, donc la culpabilité, mais qu'ils regrettaient leur vote.
Oui.
Mais c'est trop tard, on a perdu à 2 voix quand même.
L'affaire Sesnec, c'est aussi 20 personnes qui sont mortes de manière violente ou volatilisées, qui ont disparu aussi, c'est quand même incroyable.
Il y a beaucoup, alors dans l'eau, il y a des morts forcément naturelles, il n'y a aucune naturelle, mais on peut supposer... Mais il y a beaucoup de morts, oui. Il y en a 23 même, exactement.
Vous écrivez page,
ça 100, fait beaucoup, hein.
page 287, vous écrivez « C'est à ces 3 puissances, le pouvoir politique, la police et la justice, objectivement complices, que vont se heurter pendant des années les gens de bonne volonté, ceux qui veulent connaître la vérité sur l'affaire. » Là, on avait l'impression que votre grand-père pouvait pas trop s'en sortir.
Non. Mais le juge Gervais, qui était pourtant l'ancien chef du contre-espionnage français pour l'Ouest, hein, qui a milité pour mon grand-père, un juge d'instruction qui connaît les... Puis ancien chef du contre-espionnage quand même, hein, c'est pas un enfant de cœur. Lui-même, il disait, il y a une force occulte qui maintient l'affaire Sesnec sous une chape de plomb. Et maintenant, je crois que la bataille actuelle, c'est plutôt la justice qui ne veut jamais reconnaître d'erreur. La bataille, elle est là. D'ailleurs, si j'ai une procédure aussi exceptionnelle, qui est unique d'ailleurs, hein, dans l'histoire, c'est parce que tout le monde a compris... c'est la justice qui a voulu le réhabiliter, d'ailleurs, c'est pas moi. Hein. Je vous rappelle que c'est la chancellerie, hein, quand même.
Mais vous en avez fait des demandes.
Ah oui, bien sûr, mais d'accord. Après, c'est la garde des Sceaux qui a décidé, elle a dit, ça suffit, il faut que ce soit nous.
C'était Elisabeth Guigou, je crois.
Non, Le Branchu. Mais Marie Guigou a suivi, Père Ben aussi, ils ont tous été pour. Hein. Mais elle a donné 5 mois à la chancellerie d'étudier le dossier pour voir s'ils allaient, eux, demander la révision. Et au bout de 3 mois, et non pas 5, ils ont dit oui. Ensuite, on a eu l'avis favorable de la commission de révision, qui connaît bien le dossier. Et ensuite, ça a été la chambre criminelle, la cour de cassation qui a pris position. C'est unique dans l'histoire aussi. Alors là, Jean-Yves Lenné, l'avocat général cour de casse, il a dit des trucs à avoir des frissons. Il a dit, il a parlé 2 fois 3 heures. Il a dit, vous avez devant vous, s'adressant aux 50 hauts magistrats, les plus hauts magistrats, il a dit, vous avez devant vous un grand devoir, celui de réhabiliter Cessnec. J'ai la conviction absolue de son innocence. Et encore une raison supplémentaire, c'est l'Institut scientifique de la gendarmerie. Qui a fait un rapport, il y a maintenant 5 ans, 6 ans, sur les mœurs de la secrète de l'époque, en disant « les preuves ont été fabriquées contre Cessnec ». La gendarmerie a pris position, la cour de cassation, la commission de révision, tout le monde a pris position pour la réhabilitation de mon grand-père.
Mais justement, Denis Cessnec, dans les éléments fabriqués, il y a la fameuse photo anthropométrique et la photo d'identité judiciaire. Moi, j'aimerais que vous en parliez, auditeurs de Radion.
Ah oui, alors à l'époque, ça a joué beaucoup contre mon grand-père.
Parce qu'on a voulu quand même le faire passer pour un peu une élite sale gueule, c'est la
c'est
photo.
Sale gueule, vous voyez, je publie exprès les deux.
Expliquez bien, Denis Cessnec, à nos auditeurs de quoi il s'agit avec cette photo
anthropométrique. C'est une photo... les photos sont rares à la une des quotidiens. Il y a 400 quotidiens à l'époque. Maintenant, il y en a 70. Hein. Les quotidiens, la presse, le premier tirage mondial, c'est le Petit Parisien. 4 millions d'exemplaires par jour.
C'est colossal.
C'était colossal. Les veillées, il n'y avait pas la télé, pas la radio. Les gens lisaient le journal le soir. Le Petit Parisien avait 17 éditions dans la journée. 17. C'est-à-dire, mais c'était hallucinant. La presse, c'était comme ça. Les photos étaient rares. On monte la photo, l'affaire va devenir la plus grande affaire entre les deux guerres. Soldats, casqués, tout ce qu'on veut, gros cinéma. Mais on montre mon grand-père en photo. Les gens sont curieux de voir la tête qu'il a, le type qu'on accuse. Et il a vraiment une sale gueule. C'est la gueule du type fourbe.
Dur, mauvais.
Alors, il y en a de nos jours, ils diraient, oui, il a été passé à tabac. Non. Je ne peux pas attaquer cette photo-là devant la justice parce que le négatif a disparu. Demandez aux... n'importe qui, aux grands policiers, au musée de la police à Paris, dans toutes les grandes affaires, ils adorent les photos des Landru, les grandes affaires, vous voyez, etc. Cessnec, il n'y a pas de photo. Il y a une photo, mais on n'a pas le négatif. Et en matière de justice, ça ne peut être que le négatif. Alors maintenant, de nos jours, je dirais que ce n'est plus les photos. Maintenant, ça n'a plus d'impact. Ça peut jouer un petit peu, mais il y a tellement de photos, tellement de télé, tellement de films que ça n'a plus d'impact. Maintenant, c'est la rumeur. Quand on veut détruire quelqu'un, on fait courir des bruits. Et on ne sait pas d'où ils viennent. Et si possible, des bruits, c'est le propre d'une rumeur, qui peut correspondre. Moi, je crois, j'en suis convaincu, mais on ne peut jamais être certain à 100%. Je crois que j'ai passé le cap depuis 15 ans, depuis une quinzaine d'années. Ça serait difficile de me... On appelle ça être habillé. C'est l'expression. Habillé, quand on veut détruire quelqu'un, on l'habille. On l'habille, c'est-à-dire, on fait passer son frère pour trafiquant de drogue, ou lui, il a volé dans un prisu quand il était jeune, ou il circulait en moto volé, vous voyez, des trucs comme ça. Moi, je veux pas me présenter comme un saint, mais ça sera difficile de le faire passer. En tout cas, ça ferait hurler la Bretagne, je le dis tout de suite. Et en plus, la haute magistrature, les plus hauts magistrats, ils ont débattu avec moi pendant des années. Ils seraient d'un ridicule assumé. Parce que moi, ils m'auraient...
Mais vous avez
moi.
Agacé du monde aussi.
Oh, ben j'agace.
Quand vous racontez, notamment avec vos avocats au palais de justice à Paris, on vous interdit de prendre l'entrée principale.
Oh, mais pire que ça, pour aller faire. Excusez-moi, je vais le dire en radio, pour aller faire pipi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je suis convoqué à 9h du matin. Ça se termine à 17h. Je n'ai pas mangé. À un moment, il y a une suspension de séance avec les plus hauts magistrats. À un moment, moi, j'ai envie d'aller au petit coin, comme certains magistrats d'ailleurs. Pourquoi me faire accompagner par 2 gendarmes ? Pour me maintenir ? Non, mais c'est une façon de m'humilier. C'est une façon de... Les gendarmes eux-mêmes ne sont pas dupes, ils sourient. Ils sont plutôt sympas avec moi, d'ailleurs. Mais moi, par provocation, je laisse la porte ouverte. Non, mais vous voyez, je le fais exprès.
Et vous avez une figure médiatique, vous avez su Très, très justement, me semble-t-il, parce qu'il y a le livre, et puis vous avez expliqué les choses. Vous avez su vous attirer la sympathie des Françaises et des Français essayer de réhabiliter votre grand-père qui n'a pas été réhabilité. Que... Alors, on pourrait dire que vous avez vécu un échec, Denis Cézanne.
Oh, oui, c'est vrai. Il y a un peu de vrai.
Dans un combat
en même
complètement
temps,
fou.
Si je suis soutenu par autant de gens, c'est peut-être parce que je ne parle même pas de la Bretagne qui est encore à part.
Hein. Oui.
C'est culturel.
Et aussi l'identité.
Il y a le combat,
voilà.
Oui. Et puis il y a le combat, ils aiment bien les combattants. Attention, ils ne font pas de cadeaux. Hein. Si vous n'êtes pas clair ou vous n'êtes pas honnête ou je ne sais pas quoi, ils vous calcinent. Hein. C'est ça aussi. Hein. C'est pour ça que je suis très attaché à ce soutien-là. Mais en général, les gens ont tous affaire. Un Français sur cinq aura affaire à la justice dans sa vie. Si c'est pour une garde d'enfants, un sur deux, au moins un sur deux, n'est pas content de la décision. Souvent les deux, d'ailleurs. Mais peu importe. La justice a très mauvaise presse.
Mais je voudrais vous poser une question.
Alors peut-être que moi, comme je tiens tête, après tout, ils ont détruit ma famille. Il y a peut-être le côté, les Outreaux, ils font partie de mon bureau, les Outreaux, Alain Maricot, le huissier, Rosine Godard, la boulangère. C'est des gens, ils sont cassés, ils ont fait 3 ans de prison.
Denis Cézanne, une question très directe. Avez-vous confiance aujourd'hui, en cette année 2011, avez-vous confiance en la justice de votre pays ?
Du tout. C'est une loterie.
Denis Cézanne sera à Tonnerre ce vendredi 18 novembre
pour donner une conférence sur l'affaire Seznec, qui pour la première fois dans l'histoire judiciaire en France a condamné au bagne un homme pour un assassinat sans cadavre. C'est à la salle du presbytère, au 9 rue du Paty, à Tonnerre, donc ce vendredi 18 novembre à 20h30. Une conférence organisée par la librairie Plume et Images et la bibliothèque municipale de Tonnerre, en partenariat avec l'association France Justice et en partenariat également avec votre radio locale, Radion. Une conférence qui, d'ailleurs, aura lieu en présence de familles des disparus de Lyon. L'entrée est libre. Renseignements et réservations au 03 86 55 00 46. Mais pour l'heure, Denis Seznec se trouve devant les micros de Radion. Alors Denis Seznec, vous, tout au long de votre long combat, contrairement à votre grand-père, vous ne risquez rien.
Moi, je ne suis pas condamné. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est soupçonné de, comme Omar Haddad ou comme mon grand-père, comme, je ne sais pas, tous ceux qui ont été considérés comme même Dreyfus, j'irais jusqu'à Dreyfus. Moi, je ne suis que le petit-fils, à la limite. Comment voulez-vous qu'ils me mettent en prison? L'album photo, où il y a des photos interdites pendant 120 ans, la réputation, enfin. Pourquoi les familles de gardiens me donnent les photos interdites sur plaque de verre que je publie? Parce qu'ils savent que moi, il n'y a que mon éditeur, mais je crois qu'il
a dû. Donc il n'y a plus de bagne aussi en France.
Oui, mais il y a quand même, il y a une loi. Hein, mais
c'est aussi une part d'affection.
Il y a mon éditeur, mais il a de l'humour, donc il le prend très, très bien. Mais je pense qu'ils auraient bien voulu que je fasse 15 jours ou 10 jours de prison, ça aurait fait de la pub, oui. Mais je le fais, je pense pas être un provocateur, mais quand même, je considère qu'on a détruit ma famille. C'est une grande histoire d'amour. Donc de ce fait-là, qu'est-ce que vous le comptez?
Parce que ce qu'il faut bien dire aussi aux auditeurs, Denis Seznec, c'est que finalement, la mère de Guillaume Seznec est en vie quand son fils part au bagne. Oui, oui. Son épouse mourra pendant que votre grand-père est au bagne. Et votre maman a pris le combat.
Oh, vous oubliez ma tante, 20 ans et demi, qui va aller soigner l'éléphant du Han et qui meurt. Aussi, c'était l'époque un peu idiote. Enfin,
vous avez failli suivre un peu l'exemple de votre tante. Vous vouliez être missionnaire.
Ouais, oui, mais mon avis, c'est quand j'ai appris la mort de mon grand-père, on me l'a caché pendant 5 ans. Hein. Et j'étais André Caillat, qui était l'avocat de mon grand-père, qui est devenu cinéaste pour prouver l'innocence. C'est lui qui a payé le pensionnat à maîtrise de Notre-Dame de Paris. Et mon rêve, c'est vrai, moi je rêvais d'être missionnaire, mais je soupçonne que avec les petites noires ont échappé belle, parce qu'à mon avis, j'aurais été le missionnaire la bavure quand même. Enfin, je suis pas croyant, mais j'ai été élevé dans ce milieu-là quand même. Et je ne dis pas ça par hostilité, hein. J'aurais voulu être croyant, hein. J'aurais voulu, vraiment, profondément, avec grand respect.
Et pourquoi auriez-vous
parce que
ça vous aurait aidé par rapport aussi au suicide des êtres chers de votre famille, pardonnez-moi, vous l'écrivez dans le livre.
Mon grand-père et ma mère, par exemple, j'aurais pu, vous voyez, j'aurais levé les yeux au ciel en me disant, bon, ils m'attendent là-haut, vous voyez, comme, je ne sais pas pourquoi là-haut, parce que les Japonais sont de l'autre côté, hein. Mais je ne suis pas croyant, donc je ne crois pas à la... aussi bien à métapsychose, vous voyez,
la réincarnation.
Oui, voilà, les choses comme ça. Je dis ça sans hostilité, mais j'aurais voulu, parce que le combat de ma famille, qui est devenu mon combat aussi, c'est une forme de croisade quand même. C'est un truc que, moi, je crois je pense qu'il y aura toujours des maladies, hein, il n'y a pas de problème, c'est pas pour autant qu'on doit
mais
pas
lutter. Mais après vous, Denis Seznec.
Ah, il n'y aura plus personne. J'ai une sœur qui est plus âgée, d'une dizaine d'années de plus, qui me soutient, mes neveux et nièces, mais c'est pas du tout pareil, c'est du vu à la télé. Moi, j'ai un combat, je suis président de France Justice avec toutes les grandes affaires, et Outreau... Regardez, ma force, c'est de dénoncer Outreau, c'est les disparus de Lyon.
Mais alors, le fait peut-être, Denis Seznec, d'attirer au sein de votre association
d'autres,
est-ce que c'est pas aussi un peu se tromper? Est-ce que c'est pas aussi quelque part prendre le risque de...
Ah, on peut se tromper. Attention, on n'affirme pas l'innocence. Hein. Simplement, on dénonce des dysfonctionnements qui peuvent conduire à des erreurs.
J'aime beaucoup parce que vous citez, à la manière d'Hercule Poirot dans le livre, vous citez un extrait des Dix Petits Nègres, et le personnage d'Hercule Poirot dit dans les Dix Petits Nègres, « Je ne cherche pas à trouver les coupables, mais à pouvoir innocenter les innocents. » C'était ça, votre...
C'est ça.
Mais Outreau, on ne va pas trop en parler, parce que je n'ai pas tous les éléments.
Oui, et puis... Mais il y a les parents de Cassès, Florence Cassès,
qui vient. Mais Outreau a joué contre la révision du procès de votre grand-père.
Si j'avais un regret, je l'ai. Maintenant, à ce moment-là, il fallait dénoncer des gens qui étaient en prison, quand même. Hein. Des gens qui étaient innocents et qui étaient en prison. Mais c'est vrai que ça a dû jouer contre moi, parce que j'ai perdu à deux voix. Et à mon avis, il y en a qui ont dû se venger.
On revient au procès de Guillaume Sesnec. Le procès s'ouvre à Quimper, 24 octobre 1924, et votre grand-père est condamné aux travaux forcés à perpétuité, à une seule voix de majorité. Ouais, ouais. Il est condamné le 4 novembre 1924.
Oui.
J'aimerais qu'on revienne sur Pierre Quemener. Plusieurs hypothèses. Est-il parti aux États-Unis avec une femme? Ça, ça a été un petit peu
l'hypothèse
de Frédéric Potcher,
oui,
le chroniqueur judiciaire.
Oui. Il y a d'autres
et
hypothèses.
Et vous avez une idée, vous?
Enfin, moi, j'en ai qu'une, mais je prétends pas envers la vérité. Hein. J'en ai une parce qu'elle me convient dans le sens où les témoignages coïncident, etc. Et c'est qu'une conviction. C'est celle du juge Gervais. C'est que probablement Quemener a dû être assassiné à Traunès. C'est innocent de mon grand-père. Il ne peut pas faire 420 km en 20 minutes. Hein. Il y a ça. Et c'est un avantage, c'est que ça explique le mystère. Un drame de droit commun. Quemener est assassiné par son frère, son beau-frère, quelque chose comme ça. Et Bonny qui intervient, qui brouille les pistes. Il le dira d'ailleurs. Qui brouille les pistes pour pas qu'il y ait d'enquête sur la disparition de Quemener, pour le trafic des voitures.
Est-ce qu'il y avait une affaire d'État derrière l'affaire?
À mon avis, oui. Sinon, ça ne s'explique pas. L'affaire Sesnec, elle est absurde. Sinon, enfin, je ne dis pas qu'il y en a tous les jours, mais il y a des affaires Quemener, il y en avait plusieurs fois par an à l'époque.
Donc peut-être un jour retrouverons-nous le squelette de Quemener.
Il faudra faire attention, il ne faudra pas que je sois là le premier et qu'un jour il y a eu quelqu'un qui avait pensé que ça traînait. Je restais à l'écart, j'ai fait tout filmer pour ne pas qu'il soit dit que j'avais pu mettre un bout d'os ou je ne sais pas quoi. Parce que c'est ça aussi. D'ailleurs les magistrats l'ont fait pour, pas pour un squelette, mais ils l'ont fait pour une histoire de cassette. Avec mes avocats, ils ont fait casser des scellés pour des interviews de 20 heures sur l'affaire. Et ils ont voulu démontrer que j'avais pu faire pression sur une témoin de la vendeuse de machines d'écrire. Mmh. Hein? Eh bien, ils ont
la
voulu...
mademoiselle Erenval.
Erenval, oui. Mmh. Eh bien, heureusement que j'ai procédé, j'ai demandé aux journalistes de l'époque de toujours tout filmer. Parce que quand ils ont saisi, ça a duré des mois, ils ont saisi les bandes professionnelles, le grand public l'a pas su tout ça.
TF1 vous a quand même bien aidé.
Oui, c'est-à-dire qu'ils étaient en porte-à-faux. C'est que les syndicats de journalistes ne voulaient pas donner les cassettes professionnelles aux magistrats parce qu'ils considéraient que si un jour, pour Sesnec, pourquoi pas, mais si un jour pour une manifestation, ils pouvaient tomber dans un piège. Alors ils étaient contre. Alors ils avaient trouvé une solution à moitié-moitié ils l'ont pas dit comme ça, mais pour m'aider en fait, d'une certaine façon, parce que moi ça m'aidait que les magistrats voient les cassettes. Et ils leur ont mis une pièce, une salle vidéo à disposition avec un technicien, et les magistrats pouvaient voir tous les visionnages, et s'il y avait un passage, ils auraient pu le capter. Oui, on avait trouvé cette solution. Mais vous savez, je vous le dis parce que ça, je n'ai pas apprécié. C'est les dirigeants de TF1 qui me l'ont dit. Ils sont venus, il y avait des hommes en civil, et au dernier moment, quand ils étaient sûrs que toutes les cassettes professionnelles étaient là, vous savez, gros truc, hein, eh bien, il y a un des magistrats qui s'est retourné vers les hommes en civil, ils étaient 5, c'était des policiers en fait. Il dit, saisissez-vous des cassettes. C'est-à-dire qu'il y avait Patrick Lelay, il y avait, je crois qu'il y avait Martin Bouygues, il y avait Poivre d'Arvor en truc, il y avait Étienne Moujotte, tous les dirigeants de TF1 qui étaient là. Et vous voyez que c'était pas quand même très, très classe de procéder à cette façon-là. Vous voyez que les magistrats... Alors vous voyez, moi je ne suis pas diplomate du tout, je le dis. Alors que normalement un diplomate ou un avocat, il ne le dirait peut-être pas pour Pimpin. Mais moi je trouve que ce n'est pas très classe de faire ça. Je viens chez vous, je dis que je vais voir si vous avez le vase en question, et puis j'attends, c'est bien le vase, vous me le confirmez, tac, et je le fais prendre. C'est pas très sympa quand même. Surtout que TF1, c'est pas, enfin, je ne défends pas une chaîne, je pourrais parler pour France 2 ou FR3 ou d'autres chaînes, hein, mais c'est quand même pas une réputation de chaîne de voyous, c'est pas des gens qui vont mentir ou truquer ou voler. Hein. Donc les dirigeants sont là. Franchement, ils visionnent toute la journée. On leur met un technicien à disposition. Ils font saisir les bandes. Bon, d'un sens, je ne vous cache pas que ça m'a arrangé, parce que ils ont emmené les cassettes, ils les ont visionnées dans leur coin, et ils m'ont donné raison. Ils ont montré que je n'avais jamais fait pression sur la dame. Et j'ai eu l'instinct, conseil de mes avocats, de tout faire filmer. Alors, à un moment, elle me serre la main. Je lui dis « Bonjour, madame ». Je dis rien d'autre. Elle me dit elle me fait presque une déclaration d'amour, mais vous voyez, c'est... Et quand je dis son nom, Erenval, vous savez que la justice l'appelait sous son nom de femme mariée, ce qui n'est pas très classe non plus, parce que au Havre où elle habitait,
c'est la même personne.
Ben oui, et puis ses filles ont des boutiques, ces deux filles, c'est pas très sympa. Moi, je l'ai toujours appelé sous son nom de jeune fille, Erenval.
Bah, c'était son nom.
C'est le nom de l'époque. Mais la justice, ils auraient pu continuer à éviter en brouillant les pistes. Vous voyez que je ne veux pas. C'est pas parce que nous on a subi une injustice que pour autant on doit salir des gens qui sont pour rien. Et elle a fait un faux témoignage, elle a reconnu, je vais pas l'applaudir, je vais pas l'embrasser, mais heureusement qu'elle a reconnu avoir fait un faux témoignage. Vous savez qu'il n'a pas été retenu, hein, parce que elle a été examinée un an et demi après, de tête, hein, je vous dis tout ça, par un médecin psychiatre de la police criminelle Paris, qui s'est déplacé pour elle. Et il a décrété dans sa conclusion, je vous fais grâce de tous les feuillets, je vous dis la conclusion, qu'elle commençait à souffrir de la maladie d'Alzheimer. Non mais, imaginez l'inverse. Ça aurait été une personne qui aurait été contre moi, contre mon combat. Vous croyez que là, on se serait fait un plaisir de ne pas l'examiner sur l'Alzheimer et puis de dire ce qu'elle avait dit un an et demi avant était crédible. Vous voyez, excusez-moi, mais il y a de quoi être écœuré quand même.
Pour en savoir plus sur l'affaire, participez à la conférence que donnera Denis Cesnec ce vendredi 18 novembre à la salle du presbytère 9 rue du Paty à Tonnerre à partir de 20h30, une conférence organisée par la librairie Plume et Images et la bibliothèque municipale de Tonnerre en partenariat avec l'association France Justice et Radion. L'entrée est libre, renseignements et réservations pour cette conférence sur l'affaire Cesnec au 03 86 55 00 46. C'est donc ce vendredi à 20h30 à la salle du presbytère à Tonnerre. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la deuxième et dernière partie de cet entretien avec Denis Cesnec. Deuxième partie au cours de laquelle nous parlerons du procès qui s'ouvre à Quimper le 24 octobre 1924 et nous évoquerons également les conditions de vie au bagne, les conditions de vie de Guillaume Cesnec, devenu le matricule 49302 au bagne en Guyane. Merci d'avoir suivi ce 46e numéro de Wagon Livre. Excellente et douce nuit à l'écoute des programmes musicaux de votre radio locale. À mercredi prochain. Au revoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité.